Bonjour, vous écoutez l'épisode 19 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste, chimiste et cosmétologue spécialisée en cosmétique naturelle. Et je vous ai confectionné avec amour une infographie sur comment choisir vos cosmétiques à vous et pour vous. Elle vous donne accès à des outils de recherche en fonction des valeurs qui vous tiennent à cœur. Et en plus de cela, il y a un récapitulatif sur les bienfaits des 10 actifs très connus en cosmétique. Donc vous pouvez retrouver ça sur le site Mastel Cosmetics, en anglais et au pluriel le cosmetics.com, dans la rubrique podcast. Aujourd'hui, pour cet épisode de rentrée, qui rime peut-être avec orientation, réorientation, voire entretien d'embauche, nous allons parler des différents métiers de la cosmétique. La cosmétique, c'est un secteur qui regroupe énormément de métiers différents, et le quotidien d'un professionnel A peut tout à fait être opposé à celui d'un professionnel B de la même industrie. Dans un premier temps, nous allons voir quelques chiffres et généralités qui sont liées à cette industrie, et particulièrement en France. Puis nous allons énumérer les différents domaines de l'industrie, donc en essayant de les nommer dans l'ordre de cycle de vie du produit, donc c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la mise sur le marché, voire après même. Donc on va parler du marketing, de la R&D, de la réglementation, des opérations, de la vente, de l'esthétisme et un petit peu de l'administration. Donc pour commencer avec quelques chiffres, la cosmétique c'est un secteur phare de l'économie française avec 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Donc c'est tout à fait énorme. On est plus de 7 milliards d'humains sur Terre. Donc c'est un peu comme si chaque humain avait acheté 3 euros de cosmétiques uniquement vendus en France en une seule année. Donc c'est totalement incroyable. C'est parce que la France c'est certes un gros consommateur de cosmétiques, mais c'est surtout un énorme exportateur. En 2019, il y avait 7 milliards d'euros de cosmétiques qui étaient exportés juste en Europe et plus de 15 milliards vers le reste du monde. En plus de représenter beaucoup de chiffres d'affaires, c'est un secteur qui crée également beaucoup d'emplois en France, car 170 000 emplois lui sont consacrés, dont 65% des postes sont occupés par la gente féminine. Donc avec tous ces chiffres colossaux, vous imaginez bien que cette industrie implique beaucoup de monde et donc beaucoup de métiers. Je vais faire une petite liste qui est bien évidemment non exhaustive des principaux métiers liés à la cosmétique. On va les citer dans l'ordre de vie du produit, en commençant par la première étape, donc qui est bien sûr l'idée. Et généralement, cette idée, elle est créée, elle est inventée, imaginée par le service marketing. Donc le service marketing, il peut se décomposer en plusieurs équipes si l'entreprise est grande. Donc on peut parler du marketing produit, donc notamment avec le product development, donc c'est l'idée du nouveau produit qui vient de cette équipe, donc qui peut s'appeler product development manager ou chef de produit. En fait, ils vont avoir la responsabilité de développer le produit, de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Leur quotidien, ça va être beaucoup de gestion de projet, de suivi des actions, de coordination entre les différents services, voir si on est bien dans les temps, enfin voilà, beaucoup de gestion de projet. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur le développement produit, il y a l'épisode 4 du podcast qui est dédié justement à cette étape-là. Ensuite, dans le marketing produit, on peut avoir des chefs de marque ou des chefs de groupe. Ils vont s'occuper de l'image de la marque ou l'image du groupe. Ensuite, dans le secteur marketing, on peut avoir une équipe qui va être dédiée au marketing stratégique. Donc là, ça va être la responsabilité du directeur marketing qui, lui, va avoir une vision de la marque sur le plus long terme. Et il va d'ailleurs s'appuyer sur des études qui ont été faites par la branche du marketing d'études. Dans ce marketing-là, on compte notamment le responsable études, mais on peut compter aussi le responsable de base de données, le chargé d'études, d'intelligence marketing, enfin tout ça. Et en fait, eux, ils vont vraiment analyser les chiffres des dernières ventes, par exemple, pour en déduire les nouvelles tendances et vers quoi ils voudraient mieux se tourner pour que ça fonctionne. Donc d'ailleurs, pour que ça fonctionne bien, il nous faut une équipe de marketing de distribution. Donc là, ça va être les métiers comme category manager, merchandiser, trade marketer, donc c'est aussi appelé chargé de promotion des ventes. Le chargé de promotion des ventes, il va allier des compétences en marketing, mais aussi en commerce. Et ses principales missions, ça va être de stimuler les ventes donc auprès des distributeurs. Donc les distributeurs, ça va être par exemple Sephora, Marionneau, Nocibé, peut-être Carrefour, si la marque vend à Carrefour, enfin voilà, des grands distributeurs. Il peut stimuler les ventes grâce notamment au PLV, donc aux publicités sur le lieu de vente. Il peut faire des jeux concours, grâce au visuel aussi sur le lieu de vente, des affichages, un argumentaire. peut-être des essais. Si on est dans l'industrie alimentaire des dégustations, voilà, chez Carrefour, je suis sûre que vous en avez déjà vu. Ces stratégies vont mettre en avant en fait le produit sur le lieu de vente et pour le démarquer des autres et orienter plutôt l'achat du consommateur. D'ailleurs, il faut également mettre en place une relation de confiance avec le client en dehors du point de vente, et ça va être les missions de l'équipe marketing client, qui va se composer du responsable relation client, du responsable marketing direct, du community manager, donc notamment avec tout ce qui est mailing, réseaux sociaux. Et il ne faut également pas oublier un membre pour gérer la relation avec la presse, donc la presse imprimée, mais aussi la presse digitale, pour s'assurer des mentions fréquentes dans les magazines. Bon, alors, je crois qu'on a fait un bon tour sur le secteur marketing, donc qui ont plusieurs spécialités, comme on l'a vu, hein, le marketing produit, le marketing stratégique, le marketing d'études, le marketing de distribution et le marketing client. Et une fois que l'idée du produit est claire et bien définie, bah, du coup, on va se tourner vers l'équipe de recherche et développement, concrétiser ces petites merveilles. L'ensemble de la recherche et du développement, on l'appelle aussi la R&D. Et elle fait généralement pas partie de la même entreprise. Donc, c'est-à-dire que pour mettre au point un produit, en fait, il faut regrouper plein d'expertises très différentes en recherche et développement. Et du coup, ça fait pas partie de la même entreprise. Donc, il est impossible que la marque gère l'ensemble du processus. Et du coup, pour commencer, on va définir les actifs, voire les matières premières à utiliser dans le produit pour répondre à l'efficacité qu'on veut, mais aussi à l'histoire qu'on veut donner au produit. Donc ça nous emmène à la première entreprise qu'on va voir, qui est l'entreprise de matières premières. Donc on se tourne vers des fournisseurs de matières premières pour définir avec eux quelle matière on va utiliser dans le produit, comment la matière elle a été faite, d'où elle vient, enfin si on a des normes internes, et ben on voit ça avec eux. Donc là encore, c'est une entreprise qui a tout son écosystème à elle, hein, de métiers, avec de la culture de la biomasse, la production de la matière première, la vente de leur matière, un certain marketing, enfin voilà. C'est une filière qui va comporter des agriculteurs, des chimistes pour extraire, pour purifier, pour identifier la molécule d'intérêt, mais aussi des biologistes, un service réglementation, des commerciaux, des marketeurs. Enfin, vraiment, c'est un autre écosystème, quoi. Et du coup, chaque fournisseur de matières premières a sa spécialité lui aussi. Donc, c'est-à-dire, il y en a un, il va être spécialisé, je ne sais pas, en extraits végétaux. L'autre, il va être spécialisé dans la glycérine. L'autre, il va être spécialisé en émulsionnant. Et du coup, il faut contacter plusieurs fournisseurs pour avoir tous les ingrédients nécessaires pour la formulation d'un seul produit. Donc ça fait encore beaucoup de métiers. Donc justement, en parlant de formulation, bah, il nous faut bien une équipe qui va formuler et faire le contrôle généralement physico-chimique. Donc le contrôle physico-chimique, c'est l'évaluation en fait, du produit dans le temps. On va faire des tests de compatibilité et stabilité notamment. Ensuite, après la formulation, on va faire des tests sur cette formule. Et du coup, il faut des laboratoires qui sont adaptés pour chaque test. Donc une fois que la formulation est faite et qu'elle paraît robuste, hein, on regarde bien si elle tient dans le temps, elle va être envoyée à différents laboratoires, notamment pour les tests microbiologiques avec le challenge test, les tests d'irritation ou de tolérance comme les patch tests ou les tests d'efficacité. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les tests, il y a l'épisode 8 qui est dédié aux tests de stabilité et compatibilité et l'épisode 13 qui est dédié aux patch tests. Et du coup, les principaux métiers de ces genres de laboratoires, ça va être biologiste voire microbiologiste. Ensuite, lorsque la formule a passé tous les tests, elle passe dans les mains du service réglementaire. Ils vont s'assurer que la formule respecte les réglementations en vigueur dans les pays où elle est vendue. Ils vont enregistrer la formule auprès des autorités locales, donc avant la mise sur le marché. Donc par exemple, en Europe, chaque cosmétique doit être notifié sur le portail CPNP et il doit aussi être accompagné d'un dossier d'information produit. Donc ça, c'est le service réglementaire qui peut s'en occuper. Il vérifie également que les revendications sont supportées en fait par des études, donc c'est-à-dire que le service marketing n'a pas marqué que la crème elle fait repousser tous les cheveux alors qu'il n'y a aucune étude faite dessus. Donc les revendications sont aussi encadrées par une certaine législation, donc le service réglementaire il peut revoir ça. Dans les grands groupes, il peut aussi avoir une équipe à part entière pour les revendications, car au final c'est vraiment entre le marketing et la réglementation, entre les études sur la matière première et surtout les études faites sur le produit fini. Et puis le service réglementaire, ils font aussi une veille active des nouveaux décrets ou réglementations internationales pour s'assurer que le produit reste conforme dans le temps. Par exemple, on a pu lancer un produit il y a 30 ans dans un certain pays. Si la réglementation elle change, il faut bien déjà le savoir. Et en plus, s'assurer que le produit est du coup toujours conforme. Donc après que le service réglementaire ait fait tout le nécessaire pour que le produit soit conforme et aux normes, il va avoir le service du coup opérationnel qui peut commencer les choses sérieuses, avec la production notamment. Donc ça a commencé par une étude de la formule pour la transposition industrielle, donc c'est-à-dire la montée en échelle. La formule, on l'a vu, elle a été développée donc par la R&D, mais elle a été développée surtout à l'échelle de la paillasse, donc c'est-à-dire dans des béchères qui ne vont jamais dépasser les 5 kg. Et encore, 5 kg, c'est vraiment très très gros. Et du coup, c'est aussi des outils, des agitateurs qui sont liés à la taille de la paillasse. Donc lorsqu'il va falloir reproduire la formule sur une centaine, voire des milliers de kilos, l'agitation, le cisaillement, l'homogénéité de la chauffe, tout ça va être différent. Donc il faut vraiment étudier le protocole pour reproduire au mieux ce qui a été fait à la paillasse. Après, il faut bien évidemment produire la formule à grande échelle, la conditionner, donc la mettre dans les articles de conditionnement. En amont, il y avait tout ce qui était pesé également, donc la pesée des matières premières pour la production. Il faut aussi gérer tout ce qui est planning d'utilisation des cuves de production, mais aussi le planning des lignes de conditionnement, du personnel, enfin beaucoup de gestion. Après la production, il y a l'équipe de contrôle qualité qui va vérifier la qualité du coup du produit. Donc ça passe par l'évaluation sensorielle, mais aussi microbienne et physico-chimique, donc c'est-à-dire pH, viscosité de la production, pour voir si on peut en fait vendre le produit, si c'est conforme à ce qu'on voulait. Ensuite, il va avoir tout ce qui est gestion des flux, donc la supply chain. Il faut gérer les flux entrants et sortants, et ça, généralement, c'est la responsabilité de la supply chain. Ils vont aussi se demander où est-ce qu'on stocke les matières, quel article de conditionnement on va mettre où, comment les étiqueter une fois qu'on les a stockés pour éviter toute confusion, comment gérer informatiquement les stocks pour savoir quand est-ce qu'il faut recommander les matières premières, comment gérer l'envoi des commandes, enfin vraiment la gestion des flux, quoi. Après, donc, lorsque l'équipe supply chain, par exemple, elle a déterminé quand est-ce qu'il faut recommander les matières premières au niveau des plannings de production, bah, du coup, ça va être l'équipe achat qui va être en relation directe avec eux pour s'assurer que les commandes elles sont passées en temps et en heure pour respecter les estimations des plannings. Donc l'équipe achat va négocier également les prix des matières premières et clairement, presque tout ce qu'ils achètent, ils vont négocier les prix. Donc lorsqu'on a le produit entre les mains, lorsqu'il est fabriqué, donc grâce au service opération, va bien falloir aussi le vendre. Donc pour cela, on fait appel au service de vente. Donc lui, le service de vente, il va s'occuper notamment de la stratégie de vente. Donc ça veut dire, est-ce qu'on vend le produit à des entreprises, donc c'est-à-dire en B2B, business to business? Est-ce qu'on le vend à des particuliers, donc c'est-à-dire en B2C, business to customer? Quel est le réseau de distribution? Quel est le prix de vente? Enfin, eux, ils vont revoir toute la stratégie. Ensuite, il faut gérer les comptes clients, donc c'est la sorte de SAV des gros distributeurs, quoi. Que lorsqu'on fait du B2B, donc business to business, si on vend à Sephora, par exemple, bah, Sephora va nous acheter beaucoup d'unités d'un coup. Donc, c'est-à-dire qu'on va un peu chouchouter Sephora, parce qu'ils ont beaucoup de lieux de vente, donc ils vont faire beaucoup d'unités de vente. On va négocier les prix avec eux, on va revoir les délais de livraison, les plannings de lancement, etc. Ensuite, il y a les vendeurs, hein, qu'on retrouve notamment en parapharmacie, si on va en parapharmacie, ou alors à Sephora, ou alors à tout autre distributeur, hein, Marionneau, Nocibé, où on veut. Et même dans la boutique des marques, si du coup, les marques sont assez grosses pour avoir des boutiques. Donc par exemple, l'Occitane, ils ont des vendeuses. Et ensuite, dans le service vente, on retrouve aussi l'équipe de SAV, donc l'équipe de service après-vente, qui va répondre aux questions et aux plaintes des clients qui ont déjà acheté le produit. Donc une fois que les produits sont vendus, il y a tous les métiers qui sont liés aux produits de beauté, tels que le secteur de l'esthétisme. Donc là, on va retrouver les salons d'esthétique, de coiffure, d'onglerie, les spas qui utilisent les produits pour leur activité, et aussi les maquilleurs professionnels. Et pour finir, il y a tous les secteurs annexes donc qui contribuent à ce que toute entreprise fonctionne bien. Donc par exemple, donc les RH, la paie, la comptabilité, etc. Donc en conclusion, le domaine de la cosmétique, il est source de nombreux emplois, et particulièrement en France, où c'est un secteur phare de l'économie nationale. Les métiers ils sont très variés et touchent notamment le secteur marketing, de la recherche et du développement, de la réglementation, des opérations, de la vente, de l'esthétisme, et ensuite, comme toute autre entreprise, un peu d'administratif. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez plus sur les métiers de la cosmétique. Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur notre site internet, donc mastelcosmetics.com. cosmetics.com, donc cosmetics en anglais au pluriel, dans la rubrique podcast. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Les Dessous de la Cosmétique sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Si vous aimez ces podcasts, je suis sûre que vous allez adorer les comptes Instagram et Twitter que vous pouvez retrouver sur l'identifiant Mastel Cosmetics, donc toujours en anglais au pluriel et tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et en attendant le prochain épisode sur un actif à base d'algues et de gomme tara. C'est un de mes actifs préférés et c'est l'allié des peaux matures et des peaux sensibles. On verra ça prochainement. Bye !